Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Bonjour Vincenzo.
Bonjour Fabrice, ça va depuis la semaine passée?
Écoutez,
As-tu vérifié ton statut martial?
Non, pas encore, je vais le faire, j'ai très peur. J'attendais d'abord de refaire une émission avec vous. Parce que d'abord là, vous savez quoi? Parce qu'on va parler des excès, justement.
Oui, mais est-ce que tu peux rappeler ce qu'on doit doser pour avoir un bon statut martial, ce que le patient va devoir demander à son médecin? Parce que souvent, le médecin, qu'est-ce qu'il se limite à demander quoi?
Le statut en fer. Alors qu'il faut...
Oui, mais qu'est-ce qu'il dose?
Eh oui.
Est le seul paramètre qu'il évalue?
Alors, déjà, il faut qu'il évalue. Moi, je vais vous dire, parce que la question, je ne l'ai pas tout à fait compris, ça a été un peu coupé, mais il faut qu'il évalue la ferritine, la transférine et la saturation de la transférine. On attaque direct.
Et d'habitude, qu'est-ce qu'il se limite à quoi?
Au statut en fer, tout simplement.
Non, à la ferritine. Ah là là, mauvais étudiant.
Oh, mauvais étudiant. Mais vous savez, avec vous, j'aurais eu la mention. Très bien.
Alors, pourquoi est-ce que la ferritine peut être extrêmement, déroutante et donner de fausses informations?
Oh. Oui, alors attendez.
Est-ce que si ma ferritine est bonne, ça veut dire que j'ai assez de fer?
Est-ce que votre ferritine est... Non, pas du tout, parce que parfois elle peut être
bonne. Mais que représente... Oui. Allez-y.
Non, allez-y. Je vous écoute, puisque vous avez décidé de commencer l'émission comme ça, sans queue ni tête, sans dire merci aux auditeurs, sans rien du tout. Vous avez décidé, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis là, je peux pas, je suis désespéré.
On est tellement dans la continuité de l'émission passée que on va reprendre le cours de la fois passée. Hein. Écoutez, parce que c'est un peu répétitif votre truc. Hein.
Mais non, mais on va pas faire à chaque fois la même émission.
Oui, donc voilà. Donc allons directement dans le vif du sujet. On a tellement peu de temps et tellement de choses à dire. Donc ce qui est important, et je vous prends un peu comme cobaye, parce que c'est important que vos auditeurs sachent que le statut en fer, ce n'est pas que la ferritine. La ferritine donne, en fait, l'idée du stockage s'il n'y a pas d'inflammation. Donc, si la ferritine est bonne et qu'il n'y a pas d'inflammation, c'est que votre réserve en fer est bonne. Par contre, ça peut donner une fausse idée que vous avez assez de fer, parce que la ferritine a été une réponse vis-à-vis d'une inflammation. OK? Et comme vous l'avez très bien dit, j'en suis étonné, pour avoir un statut martial complet, on fait la ferritine, la transférine et sa saturation.
Okay? Eh oui.
Qui idéalement doit être aux alentours de 35% de saturation.
Vincenzo, je vais quand même remercier nos auditeurs, parce qu'on voit que vous n'avez jamais fait de radio, parce que sur le live de la... Alors le podcast, effectivement, les gens peuvent enchaîner, mais sur la radio, il y a du live, et les gens, ils se disent, là maintenant, c'est le professeur Vincenzo Castronovo, et vous êtes fidèles, et de plus en plus nombreux à l'écouter. Merci, pensez à vous abonner si vous le faites en podcast, et vous l'avez vu, le professeur, il porte bien sa dénomination de professeur, parce qu'il est avide, et il est très empressé de vous transmettre son savoir. Donc on parle de fer depuis un moment maintenant, on a notamment évoqué... notamment le statut martial, ce que c'était. On a parlé même de l'hepcidine la semaine dernière. Là, je voudrais, avec votre accord évidemment, qu'on parle peut-être des excès en fer, puisqu'on parle, on a parlé de carence, on a mis l'accent sur les carences en fer, mais un excès de fer, et vous l'avez dit, c'est quoi? C'est à double tranchant, vous avez dit, hein, la semaine dernière, il me semblait. Mon cher Vincenzo?
Absolument, j'ai dit que c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Voilà, Dr.
Jekyll. Et que ce fer pouvait être extrêmement dangereux en excès. parce qu'il favorise la réaction de Fenton, surtout en présence d'antioxydants. Parce que le fer, en fait, j'avais expliqué au début, c'est un atome qui peut, quand il est réduit au stade de plus, donner un électron. Et alors, comme il perd un électron, il perd une charge négative, il devient le fer tropique, ce qu'on appelle le fer ferreux. Alors, ce qu'il est réduit, on parle de fer ferrique. Donc, quand un électron peut détonner si facilement, l'oxygène peut s'en accaparer et se transformer en radical libre. On parle d'excès de fer lorsque, à 3 mois d'intervalle, et on va vérifier, la saturation est au-dessus de 50%. OK? Donc, une fois qu'on a 3 fois de suite une saturation de 50%, on va devoir exclure une pathologie qui est extrêmement dangereuse, qui est l'hémochromatose. Parce que l'excès de fer va entraîner pas mal de soucis, et notamment des soucis au niveau du foie. Okay? Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, ce dosage, on peut avoir les mêmes symptômes quand on a un excès de fer que quand on en a une carence. L'hémochromatose, c'est une maladie qui peut être héréditaire ou acquise. D'accord ? Mmh. Alors, c'est dû à un problème justement de la régulation de la transférine du récepteur. Et là, on peut déterminer génétiquement si vous êtes porteur de cette maladie héréditaire. On peut également avoir une hémochromatose secondaire sans anomalie héréditaire génétique qui peut être due soit à une transfusion excessive, soit, par exemple lors d'anémie chronique, soit une injection trop importante de fer, soit à l'alcoolisme chronique qui perturbe le métabolisme du fer. Alors, c'est secondaire, eh bien on va traiter la cause. Quand c'est héréditaire, il n'y a qu'un seul traitement, c'est la saignée. Et j'aime rappeler que la saignée faisait partie des traitements de base. Il y avait 2 traitements de base qu'on faisait notamment il y a très longtemps. C'était la saignée et le lavement. Donc, c'était pas une mauvaise idée puisque l'excès de fer peut entraîner un stress oxydant. Alors, quand vous avez une hémochromatose héréditaire, vous allez trop absorber le fer, il ne sera pas régulé. Vous allez avoir une saturation de transférine élevée et puis vous allez avoir une augmentation du fer dans le foie. Ça va conduire à la fibrose. Généralement, les premiers symptômes vont apparaître aux alentours de 45-50 ans. Ce qui veut dire que c'est intéressant de régulièrement doser le statut martial parce que dès qu'il y a l'installation de cette saturation, il faut absolument explorer la cause et éventuellement, si c'est héréditaire, mettre en place le traitement. Et on a évidemment des résultats remarquables parce que quand vous avez un diagnostic à 30 ans, on va améliorer de manière spectaculaire l'espérance de vie. Okay? Et quand on a une découverte à 50-60 ans, on est beaucoup moins performant pour soulager le patient, notamment assurer une longévité optimale.
Et alors, qu'elle soit génétique ou acquise, est-ce que le traitement est aussi efficace ?
Évidemment. Ben, quand elle est... Donc voilà, par exemple, j'ai en face de moi un tableau. Quand vous avez, le diagnostic de la cirrhose, que ce soit acquise ou héréditaire, eh bien, vous allez avoir, grâce à la saignée, à une réduction du risque de cirrhose de plus de 90%.
Wow.
OK. Ah, donc c'est très efficace. OK. Alors parfois le diagnostic se fait de manière hasardeuse parce que des personnes qui font des dons de sang, il y a toujours un bilan sanguin avant. On va voir qu'ils ont trop de fer, trop de saturation et là, on va leur faire des signes non pas pour donner leur sang, mais bien pour les soigner. Donc, c'est une saignée thérapeutique.
Bien, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec le professeur Vincenzo Castronovo, c'est sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Découvrez Nutri TV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. Nutri TV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Le professeur Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio qui nous rappelle des pratiques ancestrales. La saignée, vous avez dit, il y avait quoi la saignée? Il y avait le lavement qu'on faisait au
parc. Absolument. Donc,
et il y avait aussi le... Bon. Alors ça n'a rien à voir avec le fer, hein, mais parmi les anciens, les choses qu'on faisait avant, il y avait la saignée, le lavement et le vermifugage. On est d'accord?
Et les sangsues.
Ah, et les sangsues aussi, les sangsues. Oui. Ah, ça y est, on ferait qu'on fasse une émission sur tous les anciens traitements et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Les sangsues. Les sangsues, c'était pourquoi?
Pour absorber le fer. Les sangsues, ce sont des bêtes qui se connectent et qui absorbent le fer. Évidemment.
D'accord. Non, mais là, et qui.
Voilà.
Et qui?
Donc, voilà. Alors, moi, je pensais que ce serait peut-être intéressant de parler de quelque chose qui est extrêmement important, qui n'est pas du tout considéré. C'est nos enzymes de détoxication. J'ai parlé la fois passée de la détoxication de l'alcool. OK. Mmh. Donc, en fait, notre corps, de manière remarquable, se débarrasse des déchets de notre métabolisme, mais également des toxines qui rentrent dans notre corps, par un système extrêmement complexe qui est la détoxication. Cette détoxication, en fait, généralement, les toxines sont peu solubles dans l'eau, on dit qu'elles sont lipophiles ou hydrophobes. Et donc, pour s'en débarrasser, puisque nos voies d'élimination sont aqueuses, soit l'urine, soit la bile. Okay? Et donc, il faut rendre ces toxines plus solubles, d'une part pour pouvoir les éliminer, mais également pour les inactiver. C'est la première phase de la détoxication qu'on appelle la phase 1, c'est facile à retenir pour vous. Et la deuxième s'appellera comment?
Déjà, c'est déjà plus compliqué, hein. Phase 1, phase 2, moi je m'arrête à la phase 1.
Hein. Très bien, la phase 2, magnifique. Je suis fier de vous. Ok. Eh bien, cette phase 2, c'est la conjugaison. Et la phase 1, c'est d'accrocher une molécule d'oxygène, okay, sur la toxine, par exemple du benzène. On va le transformer en phénol. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce produit intermédiaire est parfois plus toxique que le produit d'origine. Pourquoi? Parce que, comme il est plus soluble dans l'eau, il va diffuser plus facilement. Okay? C'est un peu comme quand vous avez une tache d'huile qui va diffuser, et plus elle peut diffuser, et plus elle va abîmer le tissu. Si elle est limitée, confinée à un endroit particulier, il n'y aura que l'endroit qui a été touché. Donc, le fait de rendre la toxine plus soluble peut ou pas la rendre plus toxique parce qu'elle diffuse plus loin dans le tissu aqueux, puisque nos cellules sont constituées à plus de 90% d'eau. Hein.
Ah bon?
Donc ça c'est important. Oui, oui, nous sommes... l'eau est le solvant de la vie. Hein. En fait, quand quelqu'un qui pèse 70 kilos, eh bien, il a au moins 6 sauts de 10 litres d'eau. C'est 6 sauts de 10 litres d'eau avec quelques atomes qui en font une matière organique. On est essentiellement de l'eau.
90%, ah bon.
La cellule, c'est 99% d'eau.
D'accord. Voilà. Je ne vais pas vous contredire, hein, ouais. Mais bon.
Non, c'est-à-dire.
Non, mais je pensais que. Je disais, parce qu'on a eu une conversation avec Christian Vélo la semaine dernière, et il disait 60%, 70%. Mais bon, peut-être qu'il dit n'importe quoi, vous lui direz.
Non, mais 70% du poids total. Moi, je parle de la cellule.
Très bien. Bah, c'est ma compréhension qui est mauvaise, effectivement. Vous voyez, c'est pourquoi vous devez directement parler Christian Vélo, et pas avec moi.
Le corps, c'est 60 à 70% d'eau, ok? Mais la cellule, c'est 99% d'eau. Okay. Parce que les os, bien sûr, c'est de la matière extracellulaire. Et là, évidemment, qu'il y a très peu d'eau dans les os. Il y a remarqué ça.
Eh oui.
Hein, quand il y a la sèche, il pèse encore à certains points. Donc voilà. Bon. Trêve de bavardage inutile.
Vous touchez à votre micro là ou pas, mon cher Vincenzo ? Il y a des petits bruits.
Je touche à mon bureau.
Ouais, si vous pouvez ne pas toucher.
C'est mon bureau. Votre...
Oui, on entend tout. Écoute... Hein. Vous savez, on entend tout. Hein. Arrêtez de toucher votre micro.
D'accord. Donc, je ne touche pas mon micro. Donc, ce qui est important pour ces enzymes, c'est qu'elles ont une caractéristique extrêmement importante qui leur sont communes. Elles ont besoin de fer. Hein. Ce fer va servir à tirer l'oxygène qu'on va coller sur la toxine ou sur l'hormone à éliminer. Ensuite, une fois, par exemple, la toxine liée à un atome d'oxygène, elle va être conjuguée. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un autre groupe qui va complètement l'inactiver et elle sera ainsi prête à être éliminée, soit via la bile par le tube digestif, soit via le rein, via par l'urine. Okay. Donc, alors, ce qu'on va savoir, donc d'abord, la détoxication est fer-dépendante. Deux, ce sont des enzymes qui sont inductibles. Ça veut dire quoi ? Que l'enzyme, elle va être produite si la toxine est présente. Okay. Donc, en fait, ça explique pourquoi quand vous changez de mode alimentaire, vous allez immigrer vers un pays, il faut un certain temps avant de pouvoir être bien parce que vous devez activer toutes les enzymes qui vous permettent d'éliminer les métabolites liés à l'alimentation. Trois, elles ont, et ça c'était important, un polymorphisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, pour la population humaine, plusieurs variants qui existent pour une même enzyme. Certaines fonctionnent très bien, d'autres beaucoup moins bien. Un exemple, si on parle de l'alcool, je citais la semaine passée que l'enzyme qui détoxifie l'alcool, c'est la cytochrome oxydase 2E1. Eh bien, les Asiatiques, notamment les Japonais, ont un variant qui fonctionne très mal. Okay. C'est pourquoi les Japonais, ils sont dans le coma éthylique après avoir bu 2 verres de whisky, en moyenne. Sauf s'ils sont entraînés, parce qu'il y a l'inductibilité. Ok. Donc, c'est pour ça également que les verres de saké sont très petits. C'est des dés à coups, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui, c'est vrai.
Donc, il y a un polymorphisme, mais ça touche évidemment énormément de questions sur la détoxication des médicaments. Les médicaments doivent souvent être éliminés, détoxifiés. Et, comment dire, il y a également une interférence. Il y a une promiscuité de substrat, c'est-à-dire que la même enzyme peut être induite par une molécule et en même temps détoxifier toute une catégorie de molécules. Et ceci est à la base de ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses. Et aussi, il peut y avoir des interactions entre médicaments et molécules d'origine des plantes végétales. Un exemple qui vaut la peine d'être connu, c'est le jus de pamplemousse. Okay ? Le jus de pamplemousse contient une molécule qu'on appelle la bergamotine, okay, et qui bloque une des enzymes les plus importantes qui va détoxifier les médicaments. Okay. Donc, si vous prenez la bergamotine, eh bien, vous allez avoir le médicament qui sera moins détoxifié et vous allez arriver plus rapidement à un taux toxique. Et ça peut créer pas mal d'accidents. Donc, il faut bien savoir, déjà pratico-pratique, quand vous prenez des médicaments, si on ne vous dit pas que vous pouvez manger du pamplemousse, je parle du jus de pamplemousse, eh bien, abstenez-vous, parce que vous pourriez avoir un effet toxique, parce que le médicament ne va pas être éliminé comme il devrait l'être en l'absence de pamplemousse.
Alors, j'ai une question, si je peux me permettre, puisque ça peut donc provoquer un surdosage involontaire, et est-ce qu'il en est de même pour des compléments alimentaires qui pourraient être en surdosage aussi, et peut-être, hein, vous me corrigez évidemment, mon cher Vincenzo, être aussi un peu plus efficace, puisqu'on sait que c'est moins dosé de base.
Ça le peut, mais il y a... Je ne peux pas vous donner ça peut, mais c'est très spécifique du complément. Ce que vous devez savoir, Fabrice, c'est que le corps est relativement bien, nos cellules sont remarquablement programmées, et même une molécule qui est bénéfique en excès à des doses supranutritionnelles va être jugée comme une menace et le corps va mettre en route un système d'élimination de ces molécules. Vous voyez ?
Mmh, tout à fait.
Avec parfois des conséquences désastreuses parce que comme ces enzymes ont une promiscuité substrat, c'est-à-dire qu'elles peuvent éliminer beaucoup d'autres molécules semblables, on peut en prenant en excès d'une molécule favoriser l'élimination d'une molécule qui était en quantité optimale et qui maintenant va être déficitaire. Il y a également des inductions. Par exemple, des enzymes qui vont détruire un médicament comme la cyclosporine. La cyclosporine, c'est un médicament qu'on donne aux greffés, d'accord, pour que leur système immunitaire ne rejette pas l'hétérogreffe. Quelqu'un qui a reçu un rein, un foie, un cœur, okay, il va être mis sous cyclosporine parce que même s'il y a compatibilité immunitaire, ce n'est jamais 100% et il faut calmer le système immunitaire pour qu'il ne rejette pas le greffon. Eh bien, on sait que le millepertuis ou hypericum perforatum, qui est une plante qui peut être donnée sans ordonnance, par exemple, pour gérer un peu le blues, la dépression, parce que cette molécule a comme activité d'être un inhibiteur des monoamines oxydases, on les dit MAO, qui sont des antidépresseurs. Eh bien, si, par exemple, votre copain greffé du rein va voir son pharmacien qui il copine avec lui, il dit « Comment ça va ? Bon, c'est bon, je suis greffé, je me sens pas bien, etc. » Et qui lui dit bah, « Écoute, mon petit lapin, je vais te donner du millepertuis, il n'y a pas de souci. » Eh bien, il se peut que 15 jours plus tard, votre copain ait rejeté son greffon et fait une rejet de greffe parce que le millepertuis a induit l'enzyme qui détoxifie la cyclosporine et qui a eu comme conséquence de mettre le taux de cyclosporine en deçà du niveau qui inhibe l'immunité et donc il a fait un rejet. La même chose avec l'éthylène estradiol qui est un œstrogène de synthèse qui est utilisé dans les pilules. Et comme vous savez, les pilules contraceptives, on essaye de mettre le minimum d'œstrogène pour ne pas avoir les effets secondaires délétères de cette hormone. Et donc, si la copine de votre copain est déprimée parce que son compagnon a vu son rejet de greffe et qu'elle prend la pilule et qu'elle va voir le même pharmacien qui lui dit « Ne tracasse pas, ma chérie, voici du millepertuis », d'accord ? Eh bien, elle va avoir des rapports se croyant protégée, mais comme le millepertuis a induit une dégradation plus importante et plus rapide de l'éthylène estradiol. On a pu bloquer l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. La petite jeune fille a donc ovulé parce que l'axe n'était plus bloqué. Elle a un rapport, elle va faire un câlin avec l'ami déprimé qui a resté et elle va être enceinte alors qu'elle se croyait déprimée. Vous voyez comment l'ignorance de ces interactions peut conduire à des drames. Bien entendu, cette histoire est complètement fictive et tout personnage qui pourrait s'y reconnaître, ce serait absolument fortuit. Mais voilà.
En tout cas, c'est donc, vrai que c'est quand même incroyable. Hein. Enfin, c'est effectivement les interactions entre les plantes, des choses que l'on pense comme ça anodines. C'est pourquoi on répète d'ailleurs que les plantes, c'est pas anodin, la complémentation, c'est pas anodin, la phytothérapie, bien évidemment, non plus. Beaucoup d'interactions, il faudrait qu'on en parle plus souvent. Parce que bah, voilà, il arrive encore beaucoup d'accidents. Merci, mon cher professeur. Est-ce que vous voulez quand même, parce qu'on ne va pas terminer là-dessus, vous avez parlé des deux phases de détoxication. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième phase ?
Il y a même quatre phases. Il y a une première phase. La vraie première phase, c'est au niveau de l'intestin. Okay ? L'intestin est équipé d'un recrachoir, c'est génial, ça s'appelle la pompe PGP. Donc quand il y a une toxine qui rentre, elle est détectée et elle est recrachée dans la lumière intestinale. Ça, c'est magnifique. Et puis, il y a des enzymes qui commencent déjà à fonctionnaliser. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, en fait, devrait être la phase 1 dont j'ai parlé. Il y a la phase 3, c'est la conjugaison. Et puis, il y a la phase 4 qui est au niveau du rein, où en vérité, les toxines vont être éliminées dans une partie de ce qu'on appelle le néphron, partie du rein, ok, et qui va permettre d'éliminer. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les transporteurs de toxines au niveau du rein sont pH dépendants. Et ceci également permet de mettre la lumière sur des pratiques de nos grands-mères quand on est fatigué, qu'on est intoxiqué. On parlera de l'intoxication la fois prochaine d'ailleurs, de manière un peu plus générale. Un traitement, c'était de prendre du jus de citron tous les matins dans un verre d'eau ou de boire de temps en temps une bouteille d'eau à laquelle on ajoute une demi-cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio. Et cette approche va avoir comme effet d'alcaliniser et de favoriser l'élimination des toxines. Donc quand vous avez fait un gros gueuleton, que vous avez une période de malbouffe, ben, ça vaut la peine de pouvoir favoriser l'élimination urinaire des toxines en alcalinisant, en buvant de l'eau citronnée ou de l'eau vinaigrée ou vinaigre de cidre. Voilà un petit
tips qu'on prend d'ailleurs, on prend volontiers. Merci beaucoup mon cher professeur Vincenzo Castronovo. On rappelle que vous sortez un bouquin qui sera notamment dévoilé lors de cette 4e édition du Potentiel Humain qui se tiendra les 16 et 17 mai prochains. Où ça, rappelez-moi, Pont de Gare, c'est ça, le Pont de Gare. On vous mettra le lien aussi sur le podcast, comme ça vous allez avoir... Oui.
Voilà. Le livre est en prévente, je vais vous envoyer les informations pour le mettre sur votre site de Nutri Radio. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter ce podcast et vous abonner.
Échange de bons procédés. Merci beaucoup mon cher Vincenzo. On se retrouve la semaine prochaine, retour de la musique. Tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.